Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Qu'en est-il des connaissances médicales dans le Talmud? Quelle influence ont eu les médecins grecs ou romains sur ceux de l'époque talmudique? Comment ce savoir médical, retranscrit entre l'an 200 et 500 après Jésus-Christ, pourrait-il être précurseur des sciences modernes? Pour répondre à ces questions, nous avons invité Ariel Toledano, bonjour.
Bonjour.
Médecin, phlébologue et également spécialisé en médecine vasculaire. Vous nous entraînez avec votre livre « La médecine du Talmud au commencement des sciences modernes » publié avec le soutien de la Fondation aux éditions In Press. Vous nous entraînez dans une plongée au cœur du Talmud, cet océan de connaissances, encyclopédie des traditions du peuple juif, où, comme vous nous le montrez, le médecin est un des acteurs de la société juive de l'époque. Alors, votre livre se présente à certains égards comme un traité de médecine, on pourrait dire un traité au carré, un traité sur le traité. Par exemple, quand on lit la table des matières, je vais pas la lire in extenso parce que elle est longue, mais on a comme chapitre les règles d'hygiène corporelle, les règles d'hygiène alimentaire, les plaies, piqûres, morsures, brûlures, les connaissances gynécologiques, et puis toute une série de maladies, les maladies cardiovasculaires, les maladies du sang, les maladies digestives, l'art dentaire, les maladies de la peau, les maladies des reins et de l'appareil urogénital, les maladies neurologiques, les maladies des yeux, et enfin la spondylarthrite, par exemple, à travers la description des mots de Rabbi Juda, le prince. Les maladies infectieuses, les maladies psychiatriques, et même les maladies, on va dire, dont l'origine est attribuée aux démons et sorcières. Hein. Et enfin, tumeurs et cancers. Donc vraiment, c'est extrêmement exhaustif. Je voulais vous savoir tout d'abord comment vous aviez eu l'idée de ce livre.
Écoutez, d'abord, merci de m'inviter et je remercie énormément la Fondation d'avoir soutenu ce projet qui me tenait à cœur depuis environ 5 ans. Comment c'est venu, à vous dire vrai, on m'aurait dit il y a une dizaine d'années que j'allais faire un traité de médecine qui serait issu du Talmud. Je vous aurais dit en rigolant que franchement, je suis étonné de votre idée.
Parce que vous avez écrit déjà beaucoup d'ouvrages médicaux. Donc
voilà, j'ai écrit vraiment une dizaine d'ouvrages médicaux, j'en ai plusieurs en préparation. Mais c'est vrai que ce livre m'a porté pendant 5 ans. L'origine, en fait, c'est qu'il y a quelques années, on m'a demandé d'écrire un livre sur l'histoire de la circulation sanguine. Je suis un passionné d'histoire de la médecine. Et en me plongeant dans les écrits des grands médecins comme Galien, Hippocrate, Hérophile, toute l'école d'Alexandrie qui a été une grande école porteuse pour la fondation des sciences médicales, je me suis aperçu que... On ne disait pas grand-chose dans l'histoire de la médecine concernant le Talmud, concernant la médecine des Hébreux, concernant cette médecine qui est une médecine intéressante parce qu'elle est assez différente sur certains points, et c'est ce que j'évoque dans ce livre-là, avec la médecine grecque ou la médecine romaine. Et je trouvais qu'il n'y avait aucun médecin à traiter, en tout cas aucun livre de médecine, qui évoquait sous forme d'un traité de médecine. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je trouve ça intéressant que vous ayez parlé d'un traité de médecine. Ce n'est pas un vrai traité de médecine, parce que c'est loin d'être très exhaustif, parce que si j'avais fait vraiment un livre qui reflétait le Talmud, il aurait fait 6000 pages, au lieu de faire 260 pages. Mais c'est vrai que ce qui m'a poussé à raconter cette histoire, c'est parce que malheureusement, la médecine telle qu'elle est décrite dans le Talmud est totalement inconnue du grand public et encore moins des historiens de la médecine. Et à travers, vous avez vu que j'ai appelé le sous-titre de mon livre, c'est « Au commencement des sciences modernes », j'ai voulu prouver qu'en fait, au-delà des informations médicales que nous apporte le Talmud, ils sont les précurseurs d'une vision de la médecine qui est totalement moderne et inédite à l'époque où ça a été écrit. Et c'est ça ce que j'ai voulu expliquer à travers ce livre, au-delà du fait qu'on aborde beaucoup de sujets comme la dermatologie, différentes disciplines médicales. Mais vraiment l'idée conductrice de ce livre, c'est de montrer qu'ils avaient des idées totalement innovantes, précurseurs par rapport à l'époque. Et on peut évoquer plein de domaines dans lesquels ils étaient totalement précurseurs. Et ça, c'est ce qui m'a un petit peu surpris. Et je me suis dit, c'est incroyable. Alors, je suis un spécialiste de la circulation sanguine. C'est quelque chose que je connais bien. Et donc, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages sur la circulation sanguine. Et c'est vrai que je me suis aperçu que je suis tombé d'ailleurs là-dessus, hein, avant de m'intéresser au Talmud, je suis tombé sur un livre, un traité de médecine qui s'appelle le Sefer HaRefuot, écrit par un médecin au 7e siècle, qui est Asaf HaRofe, Asaf HaYehudi. Et ce médecin, on le présentait comme étant vraiment le médecin qui s'est inspiré des écrits du Talmud. C'était au 7e siècle, donc 2 siècles après la fin de la rédaction du Talmud. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, il avait des visions très modernes de la circulation sanguine, totalement différentes de celles qu'évoquait Galien, qui était celui qui a imposé la vision de la circulation pendant presque 13 siècles. Et en m'intéressant à ce médecin, je suis tombé sur des passages du Talmud où je voyais des disputes entre rabbins, des controverses entre rabbins, notamment Shmuel et Rav, qui sont deux grands sages du Talmud, qui abordaient la circulation sanguine avec une vision totalement différente de celle du deuxième siècle de notre ère.
Et en quoi les conceptions de la médecine telles qu'elles sont exposées dans le Talmud sont différentes par exemple de celles d'Hippocrate, qui a d'une certaine façon occulter tout le reste, hein, dont la célébrité est tellement grande.
Tout à fait. Alors, pour bien
déjà
comprendre,
pour le situer au niveau de
voilà.
De la
alors Hippocrate, c'est
important.
Quand même 5 siècles avant le Talmud, donc vous avez raison de l'évoquer parce que Hippocrate a été le médecin qui a totalement institué la médecine comme une profession. Donc on lui rend hommage en tant que médecin actuellement, parce que vous savez que la médecine était pratiquée par beaucoup de charlatans, par des guérisseurs, et lui a fondé vraiment la médecine en tant qu'institution médicale, en tant que profession, avec le serment d'Hippocrate. Donc on lui rend hommage. Mais Hippocrate, si vous voulez, n'avait pas la vision qu'ont les médecins du Talmud. Il a décrit dans différents traités des maladies.
Mais plus de 70 traités quand même, donc c'est
tout à fait, mais ce
très
ne sont pas
son œuvre est importante.
Vous avez parfaitement raison. Après, bien évidemment, vous savez qu'on dit que c'est Hippocrate, mais c'est souvent que des élèves, c'est l'école de Kos. Donc, pour revenir au médecin du Talmud, un des principes qui m'a particulièrement intéressé, c'est la notion de contagiosité. La notion de contagiosité, c'est-à-dire que cette notion qu'il existe des particules invisibles qui seraient susceptibles d'évoquer, qui seraient susceptibles d'entraîner une maladie. Cette notion est totalement absente dans les traités de médecine, je dirais même pas d'Hippocrate, ni de Galien, ni jusqu'au quasiment 19e siècle. Je vous raconte juste, et je la raconte cette anecdote, celle de Semmelweis, qui est ce médecin viennois qui, en 1846, a suspecté l'idée que la fièvre puerpérale qui tuait des nombreuses femmes en couche était due probablement à des microparticules qu'on ne voyait pas. Et il a simplement dit aux médecins de son équipe qui travaillaient avec lui dans les salles d'accouchement, quand il descendait, quand ils remontaient, je veux dire, des salles d'autopsie et qu'ils allaient dans les salles de travail pour faire accoucher des femmes en fin de grossesse, ils leur demandaient simplement de se laver les mains et on la regardait d'un air bizarre. C'était en 1846. On trouvait complètement aberrant de se laver les mains en passant d'une salle à l'autre pour des médecins. Donc c'est pour vous dire. Et quand je lis dans le Talmud, dans un traité, qu'on recommande de se laver les mains ou de ne pas boire dans un verre où quelqu'un a déjà bu, et on ne se contente pas de dire que c'est simplement pas convenable de le faire, on vous dit c'est dangereux. C'est qu'on émet l'hypothèse qu'il y a une possibilité que faire dans un traité qui s'appelle, dans plusieurs articles, où on vous dit quand vous êtes mordu, mais surtout pas le toucher, parce qu'il y a des risques que vous soyez contaminé par le pelage. Cette notion de deuxième siècle totalement nullement décrit dans aucun traité.
On suggère de manger le foie d'un...
Vous avez dans le Talmud, ce sont des discussions entre rabbins, dans ce livre-là, et chaque rabbin dit, alors qu'est-ce qu'on ferait, un peu comme on discute Arash, qui est un rabbin assez incroyable, qui à mon avis a été formé à Rome, et qui va dire, si vous êtes mordu par un chien enragé, il ne faut surtout pas attraper le chien en le touchant, mais il faut donc le tuer et prendre le foie de ce chien et manger le foie de ce chien.
C'est le principe de la vaccination.
Exactement, en fait. Mais vous voyez, quasiment 2 siècles après Jésus-Christ, donc c'est quand même très ancien. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'a...
15 siècles avant Pasteur.
Voilà, ce qui m'a interpellé, c'est que on est dans la fondation, on est dans l'émission de la Fondation de la Mémoire de la Shoah, et il y a un personnage que j'ai découvert en faisant mes recherches, qui est Israël Michel Rabinovitch, qui est un rabbin qui est arrivé en France en 1854, et qui a voulu, qui est le fils d'un rabbin de Lituanie, et qui a voulu voulu apprendre la médecine. Donc il s'inscrit à la faculté de médecine, il fait ses études de médecine, et en 1870, il entreprend de traduire le Talmud en français. Il a traduit à peu près une trentaine de traités. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que sa traduction est totalement méconnue. Quand vous discutez avec des rabbins, personne ne connaît ce personnage, mais c'est un personnage hors du commun. Il faut savoir, et c'est, j'en parlais avec des amis, qu'en cette fin du XIXe siècle, il y avait une émulation dans la communauté juive, ou en tout cas en France, sur les textes de la tradition juive, qui n'a, a priori, n'a jamais eu, il n'y a jamais eu autant d'intérêt, même à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en cette fin du XIXe siècle, vous aviez ce Rabinovitch qui traduisait le Talmud en français, et vous avez Jean de Poli qui a traduit tout le Zohar en français. Et ça, ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la tradition juive en France. Et ça m'a toujours interpellé. Et alors ce rabbin, donc justement, quand il a traduit le Talmud en français, il avait donc une formation de médecin, il s'est intéressé au traité Yoma. Et au même moment, à la même époque, Pasteur faisait également ses recherches pour trouver donc le vaccin contre la rage. Alors je n'ai pas réussi, parce que j'ai été chercher à la Fondation Pasteur pour voir s'il y avait des liens entre ces deux personnages, je n'ai pas trouvé. Mais il y a certaines personnes qui affirment que peut-être Pasteur aurait eu vent de cette information émanant du Talmud et que ça l'aurait peut-être aidé à trouver une piste donc, dans ses recherches pour la vaccination contre la rage.
Vous expliquez que tous les passages que vous citez dans le Talmud, qui concernent donc la médecine, ont été rédigés dans un but extra-médical, en vue, en fait, d'améliorer l'observance des lois traditionnelles, des commandements. Et vous dites, ainsi, le but religieux que poursuivaient les rabbins du Talmud les a guidés sur le chemin des sciences modernes et de la médecine d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous avez voulu dire, en fait?
C'est une judicieuse question. En fait, c'est ce que j'explique dans tout mon ouvrage, c'est qu'à aucun moment les rabbins du Talmud n'ont eu pour vocation de traiter. Ils ne se présentent pas en tant que médecins. Ce sont avant tout des...
Même ceux qui sont médecins par ailleurs, enfin qui alors, ont une pratique de la médecine.
Vous avez raison.
Enfin, comme Maïmonide.
Alors, Maïmonide, c'est venu bien plus tard, mais moi je parle des rédacteurs du Talmud. Les rédacteurs du Talmud, vous avez deux catégories de figures. Vous avez donc d'un côté des médecins qui étaient vraiment médecins, qui avaient vraiment la fonction de médecin. On les appelle, par exemple, Todos Arofé. Il y a toujours le qualificatif de Rofé, c'est-à-dire de médecin, ou en araméen de Assia. Et vous avez aussi, par contre, des rabbins qui sont avant tout des rédacteurs du Talmud. Ce sont des gens qui ont participé à l'élaboration de la loi, à l'élaboration de la rédaction du Talmud. Et ces rabbins-là, eux, se différencient des médecins, mais ils avaient une compétence médicale évidente. Mais de toute manière, tout ce qu'on retrouve comme information dans le Talmud, ce ne sont que des informations qui sont issues en fait de... Le but de ces rabbins n'a pas été d'être des soignants, sauf pour ces rofés, ceux qu'on appelait vraiment médecins. Mais pour ces rabbins-là, leur but, c'était simplement de comprendre les lois de Moïse. Et en voulant comprendre les lois de Moïse, je vous donne un exemple. Il y a tout un chapitre concernant l'anatomie dans mon ouvrage. Ce chapitre est assez intéressant. Parce que à aucun moment, quand vous discutez avec des gens qui sont traditionalistes, ils vous disent « les dissections sont interdites ». Certes, elles sont interdites, mais les rabbins du Talmud ont dû disséquer des cadavres humains dans le but de comprendre la loi de Moïse. On dit que vous n'avez pas le droit de toucher un cadavre humain parce que vous risquez d'être impur durant 7 jours. Donc c'est la raison pour laquelle... Il faut donc pas être en présence d'un cadavre humain, sinon vous avez ce qualificatif d'impureté rituelle. Les rabbins du Talmud, comme ils ont avec humour, il y a un des rabbins qui lui dit « mais si on n'a pas le droit de toucher un cadavre, mais est-ce qu'un demi-cadavre, on a le droit de le toucher ?» Vous voyez, donc il lui dit « mais un demi-cadavre, alors si on doit définir ce que c'est qu'un demi-cadavre, il faut qu'on définisse ce que c'est qu'un cadavre. » Et en voulant définir ce que c'est un cadavre, un corps humain, ils ont dû disséquer des... malheureusement, mais en tout cas pour la permettre à la science d'avancer, ils ont dû disséquer des cadavres et ils ont constitué donc une anatomie qui est décrite dans un traité du Talmud qui s'appelle le traité Ohalot. Et dans ce traité, on a vraiment des informations anatomiques que je décris dans cet ouvrage qui sont parfaitement saisissantes. Et on arrive à la conclusion qu'il y a 248 entités anatomiques dans un corps humain. Et ce chiffre 248, on le retrouve souvent dans la tradition juive parce qu'il correspond aux 248 commandements positifs. Alors c'est un hasard, est-ce qu'ils ont voulu, alors j'explique, hein, qu'ils ont vraiment...
Et aux 248 mots du schéma aussi, vous dites.
Exactement, vous avez raison, aux 248 mots du schéma. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors moi qui suis un féru de gématria, c'est-à-dire de correspondance numérique, le nom d'Abraham, Abraham est composé donc de lettres, qui, quand on fait leur correspondance numérique, on arrive également au mot 248, qui veut dire qu'en fait, Abraham, quand il a reconnu le monothéisme, cette vision innovante, lui aussi pour l'époque, il l'a reconnu à travers les 248 entités anatomiques de son corps. Donc le lien toujours entre l'esprit et le corps que j'évoquais dans mon livre.
Mais vous dites que étudier les maladies en fonction de l'atteinte de tel ou tel organe, c'est exactement l'objet de la médecine moderne. Et c'est là où je voulais bien comprendre en quoi, c'était le sens de ma question de tout à l'heure, en quoi ils sont précurseurs justement de la médecine moderne.
Alors, tout à l'heure, on a parlé de la contagiosité.
Tout en poursuivant un but, comme vous dites, extra-médical.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, quand on parle de la médecine, on parle de la médecine à travers des spécialités, c'est-à-dire que vous allez voir un ophtalmo, il est spécialiste de l'œil, vous allez voir un néphrologue, il est spécialiste du rein, ce qui n'était pas une chose évidente au IIe siècle. Mmh. Et quand on étudie le Talmud, on s'aperçoit que si j'ai pu faire un traité de médecine de cette manière en le classant par spécialité, c'est qu'ils ont su différencier les organes. Et comment ils ont réussi ? C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'ils sont précurseurs dans ce qu'on appelle la médecine expérimentale. Il y a une chose intéressante dans le Talmud, c'est que pour comprendre comment ils ont travaillé sur l'expérimentation, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de manger un animal qui est censé être malade. C'est ce qu'on appelle la notion de terepha. Cette notion veut dire que quand vous avez face à vous, je ne parle pas des caractéristiques classiques, des sabots fendus, du quadrupède et du fait qu'il soit ruminant, je parle qu'une fois que l'animal a été abattu, il faut que quelqu'un l'examine et voit si la bête est atteinte d'une maladie. Mais si la maladie est considérée comme incurable, la bête n'est pas propre à la consommation. Et donc, pour arriver à cette constatation, c'est-à-dire de savoir que quand vous examinez une bête, elle est atteinte d'une maladie incurable, il fallait faire des expérimentations. Je vous donne un exemple. Les rabbins du Talmud se sont intéressés, par exemple, à la rate. Ils ont dit, si on a une lésion de la rate, qui est une lésion traumatique, la bête n'est pas propice à la consommation. Pourquoi ? Parce qu'elle est vouée, malheureusement, à ce qu'elle décède. Je parle dans le cas d'une bête qui n'est pas encore abattue, bien évidemment, mais il faut comprendre un peu le cheminement de pensée des rabbins. S'il s'avère que c'est simplement que cette bête n'a pas de rate, c'est-à-dire qu'elle est asplénique, elle est propice à la consommation. Ça, c'est totalement cohérent avec la médecine moderne. On sait très bien qu'une lésion traumatique de la rate est malheureusement terrible. On peut mourir d'une hémorragie gravissime. Par contre, vous pouvez vivre sans la rate. Il n'y a aucun problème. Vous voyez ou pas ?
D'accord.
Donc, ils ont réussi à faire, donc, à travers des expérimentations, une analyse organique, d'organe par organe. C'est ce
D'accord.
que j'ai voulu expliquer. Mm-hmm. Et ça, vous ne le retrouvez pas dans les traités, par exemple, de Galien. Vous ne les retrouvez pas dans les traités d'Hippocrate. Tout en sachant aussi, par rapport à la médecine romaine, Galien n'a jamais fait une dissection d'un cadavre humain. Toutes ces dissections ont été faites sur des cadavres de porcs, d'animaux, et il a fait des transpositions à l'humain, ce qui nous amène parfois à des petites erreurs et qu'on a corrigées, mais il a fallu attendre presque 13 siècles. C'est-à-dire que les informations, par exemple, concernant la circulation sanguine qu'a donné Galien au IIe siècle et qui étaient considérées comme des informations quasiment fondamentales, qui étaient soutenues par l'Église, tous ceux qui s'exprimaient, qui se contredisaient Galien, étaient considérés comme des hérétiques. Et on a pu réellement changer les choses qu'au XVIIe siècle. Je ne sais pas si vous imaginez. On a mis presque 15 siècles, ça a été très long, pour arriver à ce qu'on puisse évoquer l'anatomie sans avoir des pressions de quelle que soit l'Église. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que les rabbins, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en même temps, ils étaient des scientifiques, c'était des médecins, mais ils étaient rabbins, et que la religion n'a jamais empêché de faire des analyses sur le plan scientifique, c'était totalement lié, alors que l'Église était totalement opposée à quoi que ce soit comme discussion. Et ce qui m'a plu, et c'est ça ce qui m'a, je vous en parle avec passion parce que pendant 5 ans, et je continue à travailler dessus, pendant des mois, ces discussions entre rabbins, parfois je me disais, vous savez, en tant que phlébologue, en tant que médecin vasculaire, comprendre comment les talmudistes ont essayé d'évaluer la différenciation sexuelle in utero, c'était loin de ma préoccupation au quotidien. Mais c'était tellement passionnant de voir ces rabbins, ces discussions. Et c'est ça
c'est
ce qu'on voit.
C'est vrai qu'il n'y a pas de tabou. Vous le montrez, ils analysent le sang menstruel,
complètement.
Le sperme.
Complètement. Et ça, c'est, alors, vous voyez, c'est très intéressant ce que
ils
vous dites.
Ils parlent des relations sexuelles.
Ça, c'est incroyable. Parce qu'à aucun moment dans les traités de Galien ou ceux d'Hérophile, vous avez l'utilisation de réactifs pour analyser le sang ou pour analyser le sperme. Vous vous rendez compte ? L'utilisation de réactifs à des fins biologiques, c'est quelque chose totalement d'innovant. Et les rabbins du Talmud le font quotidiennement. Regardez les techniques chirurgicales. Je décris qu'on dit que la césarienne sur femme vivante a été, entre guillemets, décrite dans les traités de médecine au XVIe siècle. Mais je dis non, c'est pas au XVIe siècle. C'est bien avant. Les rabbins du Talmud évoquent la césarienne sur femme vivante au deuxième siècle, entre le deuxième que quand une femme pourquoi il y a cette différence, il y a 33 jours et une césarienne, on décrit parfaitement la technique de la césarienne et on dit quel est le statut de cette femme au niveau rituel une fois que la césarienne s'est déroulée. Ça veut bien dire que la femme est toujours en vie. Donc quand on dit que c'est au 16e siècle que cette technique a été décrite, je pense que les historiens font une erreur. Les talmudistes l'ont déjà pratiqué, déjà à une époque un peu plus lointaine.
Vous rapportez aussi une anecdote où un jeune marié va se plaindre auprès de son rabbin que son épouse n'a pas saigné, on pourrait dire, lors de la nuit de noces. Et le rabbin lui dit, mais malgré l'acte sexuel, l'hymen peut rester intact. Ça, c'est la preuve d'une grande ouverture.
Voilà,
quand même.
Vous voyez.
Mais est-ce que ce n'est pas lié justement à ce que vous dites très bien aussi, au fait qu'il y a une injonction talmudique fondamentale qui est de prendre soin de sa santé.
Ouais,
et que les prescriptions médicales sont en même temps des prescriptions morales.
Tout à fait.
Ça expliquerait le fait qu'il n'y ait pas de tabou et au contraire que ce soit particulièrement valorisé.
Tout à fait. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que à aucun moment dans la tradition juive, on ne vous interdit de vous soigner. Et je vais vous dire même mieux, si Hippocrate, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, a inventé, entre guillemets, la médecine telle qu'on la conçoit aujourd'hui, dans le sens la médecine en tant que profession, la médecine préventive, elle est originairement issue de la Bible. Je cite dans mon livre un verset de la Torah qui dit « Si tu suis mes commandements, je ne t'affecterai pas des maladies que j'ai infligées l'Égypte, car je suis ton Dieu, ton médecin. » Et les commentateurs de la Torah disent « Mais je ne comprends pas, s'il ne nous afflige pas de maladies, pourquoi il a besoin de nous préciser qu'il est notre médecin ? C'est qu'on est indemne, on n'a pas besoin de médecin. » Et Rashi, qui est un commentateur célèbre de la Torah, dit « Mais non, la vision de la médecine issue de la Torah, c'est au contraire, c'est comme quand un médecin te dit « Tu ne devrais pas manger ceci, tu ne devrais pas manger cela, et c'est comme ça que tu seras en bonne santé. » Donc c'est tout à fait cette vision préventive de la médecine. Donc cette injonction d'être en bonne santé, elle est totalement dans l'esprit des lois de Moïse.
J'aurais une dernière question, on va devoir s'arrêter là malheureusement. Je voudrais savoir en quoi ce savoir relativement nouveau, enfin en tout cas ce savoir juif, on peut dire, a influencé, voire même modifié votre pratique de médecin. Je pense par exemple à la notion d'espoir. Hein, vous dites, elle est fondamentale dans le judaïsme. Ouais. Et dans une société ultra médicalisée, on a tendance à occulter la part irrationnelle de la médecine et à condamner des malades un peu vite peut-être.
Vous savez, vous me posez une question qui me plaît parce que je me suis souvent posé la question pour quelle raison j'ai fait ce travail. Je pense que ce travail m'a permis d'avoir une forme de sérénité au quotidien. L'exercice de la médecine est extrêmement difficile. Vous êtes souvent confronté à des situations difficiles. Et le fait de savoir d'où on vient nous oblige à comprendre où on va. voyez. Et cette formidable épopée très humaniste de ces rabbins, de ces médecins de l'époque talmudite m'a beaucoup intéressé parce que il y a cette formidable pensée qu'il y a toujours de l'espoir. Et moi, j'ai toujours envie de dire, même quand les cas sont vraiment parfois très difficiles, j'ai toujours envie de dire qu'il y a toujours de l'espoir. Et ça, ça m'a plu. Cette vision-là, cette magnifique histoire qu'on tient de Ézéchias, qui était un roi du 7e siècle avant notre ère, qui racontait que le prophète était venu le voir en lui disant qu'il allait mourir et qui lui a dit « Écoute, sors de ma demeure, moi je vais prier et je vais m'en sortir. » Et alors que son sort était scellé dans les cieux, et Dieu lui rajoute 15 années de vie qui prouvent qu'on peut toujours s'en sortir. Et ça, ça m'a plu dans ma pratique quotidienne. Donner de l'espoir à mes patients, je crois que c'est la vocation d'un médecin, c'est très important.
Car Dieu envoie le remède en même temps que la maladie. Hein,
tout
comme
à fait.
Dit.
Et c'est au médecin à trouver le remède, en tout cas à aider à trouver le remède. Nous ne sommes que des intermédiaires.
Merci Ariel Toledano. Je rappelle le titre de votre livre, « La médecine du Talmud au commencement des sciences modernes ». C'était Mémoire vive, deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.